Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau l'historienne Claudia Florentina Dobre, chercheuse à l'Institut d'Histoire Nicolae Iorga et présidente du Centre d'études sur la mémoire et les identités qu'elle a elle-même créé en 2016. Notre dernier échange date d'avril 2022. Une nouvelle rencontre s'imposait donc. D'autant que Claudia Florentina Dobre vient de publier un livre Povești din deviață din comunism, repressione și quotidian, histoire de vie pendant le communisme, répression et quotidien. Un ouvrage d'entretien avec 21 femmes et hommes aux expériences très diverses, des intellectuels, des ouvriers, des paysans, qui racontent leur vie un peu avant, surtout pendant et un peu après la période communiste. Des entretiens réalisés entre 2015 et 2016, puis entre 2020 et 2025 dans diverses régions de la Roumanie. C'est de ce livre dont nous allons parler ce soir. Claudia Florentina Dobre, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé.
Enfin, on échange, mais de m'avoir invité de nouveau, merci.
Voilà, au micro du soir. Alors d'abord, je vais être un peu complaisant, mais sincère. D'abord, bravo pour votre dernier ouvrage qui est, à mon sens, essentiel à plusieurs égards. En premier lieu, je dirais qu'il déconstruit une nostalgie biaisée, partielle, une apologie du passé conservatrice, parfois utilisée à des fins politiques. Mais aussi, et surtout, il met en avant ce qui a toujours été votre objectif en tant qu'historienne spécialiste de cette période. Complexifier les nuances, nuancer les opinions unilatérales, tout en rappelant les abominations du régime communiste. Un manuel essentiel qui, à mon sens, devrait être distribué dans les écoles. Il est doté de références solides et de chapitres précieux qui contextualisent, résument et mettent en perspective la période communiste. Alors, première question, où placeriez-vous cet ouvrage au sein de votre démarche académique en tant que chercheuse? Est-ce que vous diriez que c'est un aboutissement ou le début d'autres recherches différentes, privilégiant un format différent, parce que c'est un format d'entretien particulier pour un livre d'histoire?
Oui, d'abord, merci pour vos gentils mots en ce qui concerne ce livre qui vient de paraître, en fait, et qui s'appelle Povești de viață din comunism.
Voilà, je demande d'ailleurs la caméra pour ceux qui nous suivent sur les réseaux.
Oui, hein, voilà. Des histoires de vie de l'époque communiste. Mais bon, ce que je peux dire sur ce livre, c'est que ça continue mes démarches que j'avais commencé avec un projet de recherche en 2015-2016, quand j'ai fait les premiers entretiens avec des femmes qui ont vécu à l'époque communiste, qui ont eu des expériences très, très différentes, parce qu'on peut lire dans ce livre des histoires de vie sur la répression, sur les persécutions politiques, mais aussi sur la déportation dans la région de Bragan, qui sont aussi mes intérêts de recherche depuis déjà plus de 20 ans. Voilà, et puis il y a des histoires des femmes qui n'ont pas connu la répression, mais qui ont connu toutes les autres formes les formes de répression qui n'étaient pas forcément de la répression politique, parce qu'il ne s'agit pas de persécution politique, mais je pense que les femmes finalement ont été persécutées par cette invasion de leur espace privé, même de leur vie intime.
Plus en détail de ça.
Oui, il y a ce décret qui interdisait les avortements en Roumanie, qui était adopté en 1966 et qui a vraiment bouleversé la vie des gens en général, mais surtout la vie des femmes, et qui a coûté la vie de presque, on ne sait pas exactement parce que ça c'est difficile à compter, mais environ 10 000 femmes sont mortes à cause des avortements clandestins. qui bon, parce que c'était pas seulement que c'était illégal, mais c'était aussi puni par la loi. Donc les femmes pouvaient aller en prison, premièrement. Deuxièmement, toutes les personnes qui pouvaient les aider aussi pouvaient aller en prison. Donc voilà, c'était vraiment compliqué. Et en fait, ça fait que le régime communiste a été vraiment un régime oppressif pour les femmes surtout.
On va y revenir, hein, Claudia Florentina Dobré. Je voudrais d'abord aussi m'arrêter sur le format qui, comme je le disais, est assez original, on ne s'y attend pas. Vous êtes quelque part un peu transformée en journaliste?
Pas forcément, parce qu'en en fait, j'ai fait tous ces entretiens dans le cadre des projets de recherche. Et donc, c'était plutôt une approche anthropologique que j'ai fait, pas forcément journalistique, parce qu'en fait, il y avait toute une méthodologie de conseils.
En termes de format, quand on lit le livre, on lit un livre d'entretien.
Oui, donc oui, voilà. Oui, mais moi, je fais constamment dans mes recherches. Donc, un peu, oui, je peux dire que je suis un peu journaliste parce que presque toutes mes recherches, peu importe le sujet, se fondent sur des entretiens avec les témoins de l'histoire, comme je l'ai dit, parce que, bon, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des anciens détenus politiques qui étaient, disons, mon premier terrain de recherche, puis avec les anciens déportés. Avec les anciens déportés, j'ai fait presque 30, même plus de 30 entretiens. Et puis, il y a tous ces entretiens que j'ai fait avec des femmes qui ont vécu à l'époque communiste, avec des hommes aussi, qui n'ont pas été persécutés, réprimés d'une manière très évidente par le régime communiste, mais qui ont subi d'autres types de persécution, de marginalisation à l'époque communiste. Donc, presque, bon, à vrai dire, à part le moment quand j'ai fait de l'histoire du Moyen-Âge, toutes mes autres recherches sont un peu fondées sur des entretiens que j'avais faits avec les témoins. Surtout que je m'occupe de l'époque communiste, donc j'ai encore cette opportunité d'interroger les témoins qui ont vécu à cette époque-là. Ce qui est un privilège d'ailleurs, parce qu'on aurait bien aimé avoir pour le Moyen-Âge quelqu'un pour pouvoir l'interroger.
Alors, précisément, des questions courtes et directes reviennent. J'en énumère quelques-unes que j'ai notées. Avez-vous, je vous cite, hein, je cite vos questions. Avez-vous souffert pendant la guerre? Avez-vous aimé être professeur? Autre question, selon vous, le communisme a-t-il mené à l'émancipation des femmes? Ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que le communisme a signifié pour vous? Ou encore, comment avez-vous vécu la chute du régime? Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé vos questions courtes, directes, simples. Souvent, on pense que les meilleures questions doivent être compliquées et remplies d'informations. Je pense que c'est plutôt l'inverse et c'est assez peu courant, je dirais ici, en Roumanie, d'avoir ce genre de questions qui vont droit au but, je dirais, et sans s'embêter de fioritures. Donc, et ce sont des questions qui permettent de rentrer dans le quotidien et l'intimité de chacune et chacun des interlocuteurs et interlocutrices, comme vous l'avez dit, et qui permettent surtout de se faire une idée de la façon dont chacune et chacun ont vécu la période communiste. Pour vous, qu'est-ce qui ressort de ces témoignages? Surtout de la tristesse, des regrets, des traumatismes, simplement une époque vécue et passée, un peu de tout cela à la fois?
Oui, du tout, sans doute. Mais surtout, une image très, très complexe du régime communiste, parce que on a cette, disons, dans l'espace public, on a cette manière de simplifier les choses. Et l'image du communisme se construit d'une manière très critique maintenant, par exemple, donc d'une vision anticommuniste. Mais en fait, c'est très simpliste de voir les choses comme ça, ou de voir seulement la nostalgie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de nuances en ce qui concerne le régime communiste. Et les gens qui ont vécu à cette période-là, ils ont une vision assez complexe, on peut dire. Parce que, bon, c'est vrai, quand on fait un sondage d'opinion, bon, il y aura des questions, puis les gens vont dire une chose ou une autre, mais quand il y a un entretien qui est assez riche en questions, mais aussi dans les échanges, parce que ce n'est pas seulement les questions en tant que telles. Alors, on peut voir que, en fait, la vie est très complexe et aussi l'image du communisme est très complexe.
D'autant plus que vos interlocutrices et interlocuteurs en parlent, je dirais, eux-mêmes d'une façon très objective. Évidemment, c'était une période où ils étaient plus jeunes, donc on peut penser qu'ils ont une certaine nostalgie, comme tout un chacun, pour cette période où ils étaient plus jeunes. Mais on sent précisément qu'ils en gardent surtout une vraie objectivité et qu'ils décrivent les choses sans nostalgie, enfin avec nostalgie et sans nostalgie.
Oui, mais c'est aussi à cause des questions. Donc, vous avez déjà apprécié. Je pense que c'est aussi le questionnement qui est important pour avoir cette image beaucoup plus complexe du régime communiste, non pas très, très simple comme dans les sondages d'opinion. Donc, quand on dit, je regrette le communisme. Oui, mais parce que c'est la question comme ça, non? Est-ce que vous regrettez? Et oui, voilà. Surtout que, de mon point de vue, cette nostalgie du régime du communisme, en fait, c'est plutôt une nostalgie pour l'âge d'or, disons. Pas l'âge d'or de Ceausescu, mais l'âge d'or de chacun des personnes qui ont vécu à cette époque-là, surtout que les gens qui ont plus de 40 ans, ce sont des gens qui ont vécu soit leur enfance, leur adolescence ou leur jeunesse à l'époque communiste. Et sans doute qu'ils trouvent des moments qui ont été très...
Oui, donc ils ont une nostalgie comme tout le monde peut avoir de la nostalgie pour ces années de
en
jeunesse.
En plus, il y a dans cette nostalgie partout, pas seulement en Roumanie, il y a une critique du présent. Parce qu'on est toujours mécontent du présent, surtout de notre présent, parce que c'est assez compliqué. Et donc, alors le passé, c'est une sorte de refuge. Parce que, bon, on pense que dans le passé, c'était mieux. Surtout aussi que la mémoire, la mémoire de l'être humain, a cette tendance de garder plus vives les images positives, les mémoires, les souvenirs positifs que les traumatismes qu'on cache normalement. Donc, on sait très bien, les psychologues, les psychiatres, on a étudié tout ça sur la mémoire, le fonctionnement de la mémoire, et on sait très bien qu'on a cette tendance de garder les souvenirs positifs à l'esprit, tandis que les autres sont enfuis quelque part. Et donc, évidemment, lorsqu'on est demandé par quelqu'un dans la rue, on a cette tendance de sortir les souvenirs positifs et non pas les souvenirs beaucoup plus douloureux sur cette époque.
Ce qui aide énormément, ce que je disais en introduction, c'est que je crois que c'est une introduction, une conclusion, et aussi un passage au milieu qui contextualise, résume quelque part, qui ramène, qui donne encore plus d'objectivité quelque part à l'ouvrage pour, équilibrer des témoignages qui auraient été plus dur, moins dur, et je pense que ces chapitres qui contextualisent avec, encore une fois, de très belles références, sont essentiels. Et c'est très bien pensé, je trouve.
C'est justement parce que je voulais expliquer un peu...
De quelques pages en plus, c'est 3-4 pages qui permettent de remettre
c'était
en situation.
C'était ça l'idée, de mettre tout dans un contexte plus large pour que les gens en comprennent de ce qu'il s'agit. Parce que finalement, les gens, ils racontent leur vie personnelle, mais ils ont... mais je pense que les lecteurs ont besoin de comprendre un peu de quoi il s'agit, surtout les jeunes, parce que évidemment pour eux, le communisme, c'est un pays étranger, disons, c'est quelque chose de très très lointain. C'est comme le Moyen Âge, parce que c'est la même chose. Ils n'ont pas vécu à cette époque-là. Donc voilà, j'ai essayé de les aider à comprendre un peu le cadre général et de contextualiser aussi.
C'est pour ça que je disais, je trouve que c'est un ouvrage essentiel. À distribuer dans les lycées, oui, même les universités.
C'est très, très gentil et je pense que oui, ça peut aider les écoliers, les étudiants de mieux comprendre, surtout que...
Comme vous le dites, à un moment donné, il y a même, c'est parfois des tabous au sein des familles, cette période. On en parle ou on n'en parle pas. Donc,
Oui. Mais aussi, je pense que ça peut être utile, ce genre de livres, parce que bon, les manuels d'histoire sont très bien faits. Mais je pense que c'est plutôt pour les enseignants que pour les élèves. Je pense que c'est ça un problème.
C'est un manuel tout à fait différent à ce niveau-là.
Pour tous les manuels, d'ailleurs, pas seulement les manuels d'histoire. Moi, je pense que ce n'est pas attirant pour les jeunes. C'est terrible. En plus, ça n'a pas beaucoup changé de mon époque. Ce qui est un peu bizarre parce que nous, à l'époque, on avait besoin de l'information parce qu'il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait rien. Mais maintenant, tu as l'information partout. Je pense que c'est une autre manière d'enseigner. Et l'histoire, ça peut être très, très belle quand on l'apprend de cette manière-là, c'est-à-dire à travers les témoignages des gens qui ont vécu à cette époque-là, qui ont des expériences très différentes et qui peuvent nous enseigner des choses et des valeurs surtout. Mais bon,
Je crois que c'est une tendance dans votre domaine de recherche, enfin dans le domaine académique de l'histoire, d'essayer d'être encore plus proche des gens, hein, de faire une histoire plus sociale, disons.
Oui, moi. Pas forcément mes collègues.
D'accord.
Moi, je fais ça dès le début que je commençais à faire de la recherche. Je le fais de cette manière.
Je crois qu'en France également, il y a de plus en plus d'historiens.
Oui, il y a l'étranger, oui, bien sûr. En France aussi, au Canada, où j'ai fait mes études de doctorat. Donc, voilà, là-bas, oui. Mais en Roumanie, pas forcément. D'ailleurs, les études de la mémoire ne sont pas très développées en Roumanie. Malheureusement.
Et quand vous dites de rendre donc ce type de livre plus attrayant, il y a notamment des photos de famille ou des portraits en noir et blanc qui montrent souvent des personnes élégamment vêtues. Hein, je ne sais pas si c'était le cas de façon générale, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut observer. Et sur la couverture, vous m'avez confié qu'il y avait aussi une photo de vous avec votre famille en tout petit. Selon vous, ces images où on voit des gens qui sont relativement qui souriants, qu'est-ce qu'elles disent du régime communiste ?
Bon, je dois préciser qu'il y a des photos qui sont faites avant le régime communiste, surtout pour la famille Kirill, par exemple. Toutes les photos sont des photos d'avant. Donc voilà, les femmes sont très bien habillées, très Coco Chanel, des genres. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé.
Il y en a certaines
Oui, il y a aussi des photos de l'époque communiste. Et c'est très intéressant qu'on voit les femmes très bien habillées, les gens aussi. C'est pas étonnant parce qu'en fait, dans les années 60-70, les conditions de vie se sont beaucoup améliorées, la situation des femmes aussi. Il y a une ouverture du régime communiste vers l'Occident et donc il avait cette possibilité d'apprendre un peu sur la mode. Et les gens en Roumanie ont bien imité ce qui se passait à l'Occident à cette époque-là. En plus, je pense que l'événement, c'était aussi une manière de s'opposer au régime communiste, aux règles très strictes, aux cadres très, très formels, et donc surtout pour les jeunes, parce que c'est eux qui portaient les jeans, qui n'étaient pas agréés par le régime, mais ils le faisaient. Puis il y avait aussi la mini-jupe, tout un style qui n'était pas caractéristique ou préféré par le régime, mais que les gens adoptaient. D'ailleurs, je pense que les femmes portaient des jupes très courtes. quand je regarde même ma mère qui se trouve aussi dans une photo sur la couverture.
Et ça, il n'y avait pas de répression par rapport à ça?
Non, pas forcément. C'est-à-dire, ça dépend aussi de l'époque. Voilà. À la fin des années 60, non, peut-être à la fin des années 70, beaucoup plus.
D'accord.
Mais c'était pas. Mais je pense que c'était cet esprit d'ouverture. À l'époque, à la fin des années 60, tu pouvais lire Paris Match et tu le trouvais mieux que maintenant, parce que maintenant, je le trouve très difficilement.
Donc oui, ça, je me rappelle, c'était quelque chose que vous m'aviez confié la première fois.
Oui.
C'est pas vrai qu'on vendait Paris Match sous le manteau, que c'était clandestin, on pouvait le trouver.
À la fin des années 60, début des années 70, on pouvait l'acheter.
On pouvait l'acheter, d'accord.
Oui, mais pas seulement.
Et pas seulement Paris Match, ouais. J'imagine
non,
d'autres.
Le Monde et tous les autres. Bon, pas les journaux de droite, mais les journaux de gauche, oui.
D'accord.
On pouvait les trouver d'une manière assez constante, c'est-à-dire, c'était pas.
Et ça, le régime le tolérait?
Oui, oui, oui. Ah, mais c'était pas parce qu'à l'époque, tout se faisait par l'intermédiaire de l'État. Donc, c'était officiel. Donc, c'était pas une question de cache-cache avec le régime ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Donc,
ça, c'est quand même assez paradoxal.
Non, mais il y avait aussi, peut-être que j'ai écrit dans ce livre, parce que j'ai écrit un autre livre sur la vie quotidienne à l'époque communiste, et c'est à cause de ça. Donc, il y avait pas mal de concerts.
Parce que ça allait aussi contre l'endoctrinement.
Oui, mais il y avait beaucoup de Charles Aznavour. Il a été en concert à Bucarest et beaucoup de chanteurs et beaucoup de.
Mais comme vous le dites, c'était jusqu'au début des années 70. Après, ça s'est corsé, disons.
Bon, jusque disons vers la fin de l'année 70.
Et c'est après.
Mais dans les années 80, c'est aussi cette politique de Ceausescu de faire des économie et ça, évidemment, que ça empêchait les gens d'organiser des concerts, par exemple, parce qu'il n'y avait plus, comme tout se faisait d'une manière officielle, était payé par l'État, l'État n'avait plus l'argent pour payer ce genre d'amusement, disons. Et donc, ça s'est arrêté, surtout vers la fin des années 80, quand c'était les années de la pénurie, et donc il n'y avait plus ce genre de choses.
Qui voulait absolument rembourser la dette, plus avoir de dette.
Alors,
il y a un passage qui m'a fait beaucoup rire, ça peut paraître étrange vu le sujet principal du livre, c'est quand vous parlez des blagues que l'on faisait sous le régime communiste pour décompresser un petit peu. Est-ce que, je pense qu'il y en a une ou deux qui peuvent être traduisibles en français. Est-ce qu'au moins une, est-ce que vous pourriez...
À vrai dire, c'est assez difficile de les traduire en langue étrangère parce que les blagues se jouent beaucoup sur le double sens des mots. Et d'ailleurs, j'ai cité cette blague-là dans le livre, qui est très, très intéressant, sur le mot « oura », qui veut dire « yura, yura », oui, et aussi la haine.
Oui.
Et donc, c'est sur ça que se joue. Et d'ailleurs, la plupart des blagues, surtout à l'époque Ceausescu, se jouaient sur ce double sens des mots. Ce que je veux dire, c'est aussi qu'au début des années 50, donc au début du régime communiste en Roumanie, dire des blagues pouvait entraîner des persécutions politiques. Et j'ai lu et j'ai appris sur des gens qui sont allés en prison pour avoir dit des blagues comme telles. Mais après les années 60, c'était pas permis officiellement, mais les gens disaient personne n'a été persécuté.
Parce qu'il faut rappeler que si je ne me trompe pas, sous Gheorghe Delge, le Premier ministre, il y a une répression avant Ceausescu terrible. D'ailleurs, quand on voit la prison de Sighetu Marmației, qui est assez, que je recommande d'ailleurs, j'étais allé faire un tour il y a quelques années, c'est assez impressionnant.
Ce sont des époques tout à fait différentes. On a les gens dans les années 50, c'était les années de la répression et alors c'était difficile même de dire des blagues. Mais dans les années Ceausescu et même vers la fin du régime, c'était une manière d'avoir un peu plus de légèreté dans sa vie parce que c'était pas forcément très sympa. Et en plus, toutes ces blagues, c'était anonyme. Donc, se transmettait de bouche à oreille. On ne savait jamais qui a conçu une blague ou une autre. Et je pense qu'il y avait des milliers de blagues qui ont circulé à l'époque communiste, surtout à l'époque Ceausescu. D'ailleurs, il y a des collections de telles blagues. Moi, j'ai aimé mettre dans ce livre des blagues que je n'ai pas trouvées ailleurs, dans d'autres collections, justement parce qu'on m'a été transmise toutes ces blagues par des gens qui ont vécu à l'époque communiste, qui ont attendu ces blagues eux-mêmes. Et donc, j'ai voulu que ça reste aussi. Et ça, disons... développe un peu tout ce domaine-là avec des blagues qu'on a dit à l'époque.
Des époques très, très, très courtes, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ce que j'aime beaucoup dans l'humour roumain, c'est que les blagues sont relativement courtes. J'ai fait un peu du mal avec celles qui sont un peu trop longues.
Mais à l'époque communiste, c'était beaucoup plus intéressant. Maintenant, je ne trouve plus très rigolo les blagues.
En tout cas, en termes de durée, c'est court. Voilà,
Oui. Non, mais bon, il y a cette blague qui d'ailleurs, il y a des blagues qui ont circulé dans tout l'espace soviétique, dans l'Union soviétique, mais aussi dans les autres pays communistes. Et il y a cette blague qui a circulé un peu partout parce que la pénurie, il y avait partout. C'était pas seulement en Roumanie. Ouais. Et donc, il y a cette blague qui est... Qu'est-ce que c'est plus froid que l'eau froide? Et la réponse était l'eau chaude. et donc, il y avait un gros problème, ça.
Oui.
Mais apparemment, il y avait ce problème partout. En tout cas, dans l'Union soviétique, oui. Donc, cette blague a été pas forcément dans les autres pays, bien que je pense qu'en Pologne aussi, ça circulait comme ça. Mais je ne sais pas pour les autres pays, mais dans l'Union soviétique, oui.
Je vais lire l'une des dernières phrases de votre volume. Excusez pour la traduction. Hein. Et vous me direz, d'ailleurs, si vous la corrigez un petit peu. Donc, c'est l'une des dernières phrases. L'intrusion du politique dans la vie quotidienne a été constante et difficile à supporter. Mais les gens ont aussi su trouver des modalités pour pervertir cette domination, c'est ce que vous étiez en train de dire, pour la contourner afin de mener une vie qui aille au-delà des postulats du pouvoir. Est-ce que pour vous, c'est l'un des principaux messages de votre livre ?
Oui. Et je pense pas seulement de ce livre, de toutes mes recherches, parce que en fait, bon, le régime communiste roumain, c'était un régime totalitaire, comme ça a été défini par Hannah Arendt, Raymond Aron, c'est pas moi qui le dis, pas forcément, moi j'ai adopté cette perspective. Mais je pense que quand même dans mes recherches en plus, on montrait que même dans un tel régime, un régime totalitaire comme c'était le régime communiste, il y avait tous ces espaces de liberté que les gens s'aménageaient eux-mêmes. Et moi, j'ai écrit même un article académique sur les espaces de liberté dans les prisons communistes, parce que même là-bas, j'ai trouvé que surtout les femmes, parce que moi, je travaille beaucoup sur les femmes, elles ont trouvé les moyens de contourner la surveillance permanente qui caractérisait la prison politique, évidemment, à l'époque, surtout à l'époque Gheorghe Udej, donc dans les années 50. Mais il y avait quand même dans ces conditions-là, la possibilité de s'évader. D'autant plus dans la vie quotidienne des gens normaux qui ont vraiment su s'aménager tous ces espaces de liberté. Ça dépend, par exemple, dans les villages, c'était beaucoup plus facile que dans les grandes villes. Ça dépend aussi de la situation des gens, s'ils se permettaient d'avoir une vie beaucoup plus libre par rapport aux contraintes du régime. Parce qu'en fait, le régime a essayé de contrôler la vie des gens, même la vie intime, comme je venais de dire, comme j'ai dit tout au début. Mais les gens ont su, même les avortements clandestins, c'était aussi une manière de s'aménager sa liberté parce que les femmes refusaient de porter les enfants que le régime désirait. Parce que bon, surtout qu'il n'y avait pas, c'était très difficile d'avoir des moyens de contraception parce que c'était ça le problème. Finalement, c'était pas pas seulement que l'avortement était interdit, mais que les autres moyens n'étaient pas... bon, en principe, n'étaient pas interdits, mais si tu ne trouvais pas, s'il n'y avait pas les moyens de se procurer ce genre de choses, comment tu pourrais faire? Donc, voilà, c'était ça le gros problème. Et d'ailleurs, les gens ont réussi à faire cela. Parfois, avec des risques très, très graves comme... la mort, parce qu'il y a des femmes qui sont mortes. Même dans ma famille, j'ai eu une tante qui est morte à cause des avortements, d'un avortement clandestin qui a mal tourné finalement.
Et vous dites au tout début du livre que les estimations restent difficiles concernant la répression et les morts à cause du régime. Vous citez le rapport final de la commission Tisman-Ehanou qui date de... C'était quand?
2006.
2006, voilà. Qui avance le chiffre de 549 000 condamnés politiques. Mais bon, ça reste... Voilà, c'est toujours difficile, compliqué d'avoir des chiffres... Claire, aujourd'hui.
Oui, parce que premièrement, on n'a pas, le régime n'a pas tout enregistré. Par exemple, il y avait des gens qui ont été emprisonnés sans qu'il y ait les documents pour le prouver, parce que c'était la prison administrative. Donc, on a arrêté les gens, on les mettait dans la prison ou dans les camps de travail forcé, mais ils n'étaient pas enregistrés quelque part. Et donc, voilà, on ne sait pas combien de gens ont été dans ce cas-là. Puis, il y avait les archives qui sont disparues. Par exemple, il y avait cette prison de Misla, qui était une prison pour les femmes, mais les archives sont disparues après 1977. Parce qu'il y avait un incendie là-bas, mais on ne sait pas si ce n'était pas mis par les autorités, ce n'est pas clair, mais je veux dire que les archives-là sont disparues. Donc voilà, il y a toutes sortes de raisons pour cela, aussi pour les femmes qui sont mortes à cause
des conséquences de lois
répressives. Des avortements clandestins, parce qu'on n'a pas compté. En fait, ce n'était pas comme ça dans les registres, tu vois, on ne pouvait pas dire que... C'est à cause de ça. C'était un arrêt cardiaque.
Ouais.
Donc, tu ne peux pas savoir que c'était autre chose qui a provoqué la mort. Donc, on n'a pas, et je ne pense pas qu'on va avoir des statistiques très fiables sur les gens qui ont été persécutés, qui sont morts à l'époque communiste à cause de la répression ou des persécutions de toutes sortes. Donc voilà, pour ça, on ne va jamais le savoir.
J'ai une question qui me vient. Comment vous avez, comment jugez-vous le cinéma roumain qui, pendant longtemps, et même aujourd'hui, mais un peu moins, a parlé de cette époque, a voulu montrer le contexte du régime. Vous, en tant que spectatrice et historienne, évidemment, vous avez trouvé que c'était salutaire, vous trouvez que c'était peut-être un peu trop unilatéral. Comment, de façon générale, ça, on ne va pas citer de cinéaste.
Non, moi je trouve que ça a été très utile, parce que comme ça les gens, on peut se rendre un peu compte de ce qui s'est passé, de l'atmosphère de l'époque. Et d'ailleurs, c'est le film de Mungi sur les avortements.
Quatre mois, trois semaines, déjà, qui a eu la Palme d'Or.
Je pense que ce n'est pas seulement... l'action en tant que telle qui est très véridique, mais je pense aussi à l'atmosphère qu'il a réussi à créer et qui était tout à fait celle de l'époque. Et d'ailleurs, quand je voyais tous les blocs gris et toute cette atmosphère-là, ça me rappelait vraiment ce qui c'était à l'époque, surtout à la fin des années 80, que je connais mieux que pour les autres, je ne sais pas exactement, mais je me rappelle la fin des années 80, c'était pas surtout l'atmosphère.
Mais précisément, Claudia Florentina, j'aimerais, si vous me permettez, prendre votre rôle pour une dernière question et vous poser le même genre de questions que vous avez posées à vos interlocutrices et interlocuteurs. Vous étiez enfant pendant les dernières années du régime. Comment les avez-vous vécues et comment avez-vous vécu aussi la chute?
Ce qui est intéressant dans mon cas, c'est le fait que, comme j'étais enfant à l'époque, pour moi, c'était ça la normalité. Donc, je ne pensais pas au régime communiste, ça ne me disait rien à l'époque, quand j'étais enfant. Évidemment que c'était très difficile parce qu'il y avait la pénurie.
Ça, vous en rappelez, la pénurie?
Oui, oui, je me rappelle parce que, il n'y avait pas des oranges, par exemple, que le Noël. J'ai jamais mangé des bananes avant la chute du communisme. Pour ne pas parler de votre fruit exotique, je ne savais même pas que ça existe.
Oui. Mais est-ce que vous étiez... vous diriez que vous étiez une enfant...
Moi, j'étais un enfant gâté.
D'accord.
Sauf que, parce que j'étais fille unique, parce que mes parents, ils avaient de l'argent, mais ils n'avaient de quoi acheter. C'était ça le problème. En fait, je me rappelle que...
On pouvait se trouver des produits
au
marché noir, j'imagine, quand même.
Oui, mais c'était...
Mais pas dans les années... Oui, moins dans les années 80.
Oui, ouais. Mais c'était assez difficile quand même, parce que aussi sur le marché noir, il fallait avoir les connaissances nécessaires
pour
trouver ces choses-là. C'est-à-dire que, si tu étais quelqu'un qui n'avait pas les bonnes connexions, en plus, mes parents, mes grands-parents, ils étaient un peu anticommunistes, pas dans le sens de manifestation, mais comme manière de penser et tout ça. Et donc, ils n'étaient pas proches des structures du pouvoir. En fait, c'est ça que moi, j'ai vécu à l'époque communiste, cette idée de nous et les autres. Nous, on était les bons. Les communistes étaient les mauvais, les gens qui fallait, éviter.
Vos parents, c'était également ça ou un peu
moins?
Oui,
c'était mes parents qui m'ont inculqué cette idée que les communistes étaient les malins, il fallait les éviter, surtout le secrétaire du parti, ne jamais l'approcher, tout ça, les gens de la militia et tout ça. Et donc, ils n'avaient pas les connexions dans ces milieux-là qui pouvaient nous apporter des produits comme ça sur le marché noir, parce que, en fait, ces produits, c'était toujours par l'intermédiaire des structures du parti, de la sécurité, des choses comme ça. Ce n'étaient pas les gens normaux qui pouvaient le faire, parce que c'était compliqué, tu pouvais être arrêté.
En fait, c'était un marché noir officiel.
Oui, c'était le marché noir mené par les gens du régime, parce que, ils avaient les moyens et les connexions nécessaires. Ça n'a pas été le cas de mes parents, donc on n'avait pas accès à ce genre de choses.
Mais vous ne diriez pas que vous avez eu une enfance malheureuse?
Oh non, parce que je ne savais pas, c'était ça, c'était ma normalité.
Mais c'était une pénurie, mais enfin vous...
Oui, mais moi je ne savais pas comment ça pouvait être autrement. Je me rappelle que...
Vous n'aviez pas d'orange, mais vous avez d'autres choses à manger.
Ah oui, non, j'avais de quoi manger, c'était pas ça un problème, je mangeais pas trop à l'époque, donc ça allait. Je me rappelle que ma mère me disait qu'auparavant c'était mieux, parce que elle était jeune dans les années 70, et donc c'était une autre époque, qu'on pouvait trouver du chocolat ou je sais pas quoi, ce qui n'était plus le cas quand j'étais enfant, moi, c'est-à-dire que c'était très très difficile d'avoir du chocolat, parfois. Fois, on avait de Chine, qui venait de Chine, des petits carrés comme ça de chocolat, c'était magnifique, mais c'était pas bon par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant. Quand je pense, je me dis, c'est de n'importe quoi ça, mais c'était ça qu'on connaissait. Mais en ce qui concerne la chute du régime, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça peut exister autre chose, qu'il y a une autre normalité que celle du communisme. En plus, j'avais la curiosité, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences. D'ailleurs, je me rappelle que le mois de décembre 89, on l'a passé devant la télé, et surtout le Noël, on a pris le repas de Noël devant la télé, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Avant et ni après, parce que on aime être dans un autre cadre beaucoup plus joyeux, mais à l'époque c'était ça, on était fascinés.
Également, je me rappelle avoir de ce repas de Noël où on était en France devant notre chaîne de télévision à regarder les événements.
Non, mais c'était fascinant, surtout pour moi. Surtout que la télé, c'était tout le temps à l'époque communiste. Moi, à mon époque communiste, parce que, bon, auparavant, c'était mieux. Mais à la fin des années 80, il y avait 2 heures à la télé. Et c'était surtout sur Ceausescu et ses visites, ce tourisme politique de Ceausescu. Tandis que nous, on ne pouvait même pas regarder un film. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais fascinée. D'ailleurs, j'ai passé l'année 90 en regardant des films à la télé jusqu'à très tard le soir. Ouais. Bien que j'étais enfant, je devrais aller à l'école. J'étais toujours en retard à l'école. Mais bon, c'était déjà... c'était fascinant pour moi. Et d'ailleurs, je pense qu'à cause de cela, j'ai gardé cette fascination pour ce qui a été auparavant pour l'époque communiste. J'ai voulu moi-même comprendre parce qu'en fait, toutes ces recherches sont parties de mon envie d'apprendre sur cette période-là, sur ce que les gens ont vécu, sur les expériences. Et donc, voilà. Et la vie quotidienne, c'est très intéressant justement parce que c'est la vie quotidienne de mes parents, de mes grands-parents. Et donc, je voulais en apprendre plus. Parce que moi, je n'ai pas connu ça.
Très bien, Claudia Florentina Dobre. Merci infiniment d'avoir été aussi, avec nous. Je rappelle votre livre, Povești de viață din comunism, Repression et chic quotidienne. Je n'avais pas cité la maison d'édition. Cetatea Descaun, editura. Voilà, je montre à la caméra pour ceux qui nous voient la couverture du livre, donc un livre que je recommande fortement. Merci beaucoup Claudia Florentina et bonne continuation dans vos recherches.
Merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Bonne lecture et bon week-end. Au revoir.